Le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.
Africa.
Le journal des auditeurs, c'est votre émission. Bienvenue à tous. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, jeudi 3 janvier 2019, dans le JDA, Patrice Edouard Engessona en passe d'être extradé vers la Cour pénale internationale. En effet, la Cour d'appel de Paris a donné lundi dernier son feu vert à la remise à la CPI du patron du football centrafricain et ex-leader anti-Balaka. Visé par un mandat d'arrêt de la CPI, Patrice Edouard Engessona est soupçonné d'avoir commis ou aidé à commettre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans l'ouest de la République centrafricaine entre septembre 2013 et décembre 2014. Nous en parlerons avec Florent Gel, responsable du bureau Afrique au sein de la Fédération internationale des droits de l'homme. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité, appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00. Mais avant d'évoquer notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour Africa numéro 1. Bonne heureuse année, mes vœux les meilleurs. Je suis Karim Di. J'interviens sur le discours du président Alassane Ouattara pour la fin de l'année. Je souhaite que l'opposition et que toute la population de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble afin de choisir un président, une commission électorale indépendante de consensus pour une élection crédible en 2020. Le président Ouattara a donné la pêche à l'opposition, ce qu'il réclamait depuis fort longtemps, il faut la saisir. Il n'y a pas de moment actuellement pour discuter du retard de ce qu'il est ou bien de ce qu'il n'est pas. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une commission à mettre en place et c'est ce qu'il faut saisir afin de mieux discuter, de trouver celui qu'il faut pour que les élections 2020 soient une réussite totale. Merci au président Ouattara pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et merci à tous ceux qui, de loin ou de près, prônent pour la paix en Côte d'Ivoire. Merci encore. Bonne journée.
Bonjour. Dans un pays vraiment démocratique, le pouvoir se prend dans les urnes, pas dans la rue. Voir 8000 gilets jaunes saccager tout et faire reculer un président élu prouve que la démocratie française est elle aussi une démocratie bananière. Beaucoup d'Américains voudraient eux aussi voir partir Donald Trump, mais ils ne cassent pas tout et attendent la prochaine élection pour le faire. D'autre part, depuis longtemps, SOS Racisme ne lutte plus contre le racisme en France et les Africains auraient tout intérêt à créer leur propre organisme de lutte contre le racisme en France. Merci.
Oui, cher ami du JDA et monsieur Nadir, bonjour, bonne année, tous mes meilleurs vœux, surtout bonne santé à tous les journalistes de Africa numéro 1 et à tous les auditeurs. Je me permets d'intervenir aujourd'hui c'est suite aux élections au Congo et pour dire que nous attendons les résultats de ces élections avec beaucoup d'impatience. J'espère que ceci va se passer dans le calme, la transparence et la paix totale. Bien des choses à tout le monde, Dieu donné Kassongo. Que Dieu bénisse tout le monde pour cette année. À très bientôt. Au revoir, merci, au revoir. Ciao.
Bonjour à tous les journalistes de la radio africaine, Africa numéro 1, de tout ce que vous faites pour notre continent africain. Parce que vous êtes conscients que l'Afrique, avec les médias qui sont dans nos pays, qui sont les médias des dictateurs que vous connaissez, les tyrans qui sont en train de faire la répression, de tuer, de manipuler leur peuple à cause du média ou des journalistes. Nous vous félicitons beaucoup parce que vous êtes vraiment des bons journalistes et nous demandons à tous les pays d'Afrique, là où il y a des dictatures, de laisser les journalistes faire leur travail librement dans la transparence pour informer le peuple que nous sommes. Et nous voici au Congo Kabila. Coupe l'Internet, fait tout pour que les résultats soient encore reportés. On ne sait pas si pour combien de jours. Merci tous les journalistes de l'Afrique numéro 1. Merveille, bonne année pour cette année 2019.
Bonjour les auditeurs d'Africa numéro 1.
Bonjour à tous les animateurs et animatrices de notre radio Africa Number One, chers frères et sœurs, parents et amis de tout le continent africain et du monde. Au crépuscule de 2018 et avant les inévitables embouteillages sur les réseaux sociaux, je souhaite à chacune et chacun de vous et à vos proches, à celles et à ceux que vous aimez, à celles et ceux qui vous manque aussi une très belle année 2019. Je souhaite qu'elle vous apporte de joie, des émotions, beaucoup de bonheur et de beaux projets pour vous épanouir à être heureux. Et familialement, je nous souhaite un monde de paix, un monde apaisé, un monde où l'humanisme et la fraternité au-delà des différences et des divergences trouvent toute sa place. Pour notre pays, surtout la Centrafrique, la France et le reste du monde. Merci à vous et pour cette. Je vous souhaite une très belle année 2019. Votre ami, ami et parent de la Centrafrique, Guy Florent.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. La Cour d'appel de Paris a donné lundi son feu vert à la remise à la Cour pénale internationale basée à La Haye, aux Pays-Bas, de Patrice Edouard Nguessona, un ex-chef de milice centrafricaine et figure des autorités du football africain. Visé par un mandat d'arrêt de la CPI, Patrice Edouard Nguessona, 51 ans, est soupçonné d'avoir commis ou aidé à commettre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans l'ouest de la République centrafricaine entre septembre 2013 et décembre 2014. Il avait été interpellé en France le 12 décembre dernier. Nous nous sommes rendus au palais de justice ce lundi et à la sortie de la cour d'appel de Paris, l'avocat de Patrice Edouard Nguessona, Lynn Banoukepa, s'est dit serein. Il va pouvoir préparer la défense de son client devant la Cour pénale internationale. On l'écoute.
Il a été interpellé à Roissy-Charles-de-Gaulle-de-Douze. Il est tout à fait logique qu'après des vérifications procédurales, qu'il soit transféré à la juridiction compétente qui est saisie. Il est bon droit pour Nguessona qu'il se présente devant la juridiction saisie, la chambre préliminaire de la CPI, pour prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés afin que nous mettons en marche sa défense. Je suis serein comme tout auxiliaire de justice. Je défends une cause que j'estime déloyale pour le moment. Pour le moment, jusqu'à ce que la preuve nous soit rapportée des faits qui sont reprochés à Nguessona.
C'était l'avocat de Patrice Edouard Nguessona, Lynn Banoukepa. Des proches et membres de la famille de Patrice Edouard Nguessona ont assisté à l'audience et ont affiché leur déception. Jean-Claude Monapset est le cousin de Patrice Edouard Nguessona. Il évoque un deux poids deux mesures.
Je suis déçu parce que je pensais qu'on allait le libérer ou le faire rapatrier au niveau du pays pour voir. Parce que bon, il y a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures parce que les gens qui ont provoqué cette guerre civile, aucun parmi eux n'est arrêté. Et on arrête les gens qui se sont comportés comme des compatriotes, des résistants par rapport aux Sélèques qui sont arrivés en Centrafrique. Mais c'est une injustice, parce qu'aucun des Sélèques n'est envoyé au CPI.
Patrice Edouard Nguessona est actuellement écroué dans la prison de Fleury-Mérogis en attendant son transfert à La Haye, au siège de la CPI. Nous avons en ligne Florent Gel. Florent Gel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'intervenir en direct dans le journal des auditeurs. Vous êtes le directeur du bureau Afrique de la FIDH, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. On a entendu l'avocat de Patrice Edouard Nguessona qui n'est pas surpris de cette décision de la Cour d'appel de Paris. Mais Igor Lamaka, le porte-parole des anti-Balaka, a supplié à la France de libérer leur chef. La France ne pouvait pas refuser la demande d'extradition de la CPI ?
C'était assez compliqué parce que c'est pas les juridictions françaises qui sont saisies des crimes qu'aurait commis Patrice Edouard Nguessona, mais c'est bien la CPI qui a demandé à la France d'arrêter Nguessona qui se trouvait sur le territoire français. La France est un des États parties, un des 123 États parties de la Cour pénale internationale, et à ce titre a l'obligation aussi de coopérer avec la Cour. Oui. Donc ce que devaient en fait trancher les Français, c'est de savoir si, au regard de la loi française, au regard des éléments qui ont été rapportés par la procureure de la CPI, la France pouvait se permettre d'extrader, donc transférer en fait Patrice Edouard Nguessona vers la CPI. Mmh. Alors... Et somme toute, la Cour d'appel de Paris a dit oui, puisque on l'a même entendu avec la réaction de l'avocat. Oui. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'oppose à ce transfert. Au contraire, ça permet à Edouard Nguessona et à son avocat de connaître le dossier et de préparer leur défense.
Alors, pour vous, en tant que responsable du bureau Afrique de la FIDH, Patrice Edouard Nguessona devant la CPI, c'est une bonne nouvelle pour la justice ?
Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle si on n'en reste pas là. Et là, je rejoins le responsable des anti-Balaka en disant il faut évidemment qu'il n'y ait pas une justice à deux vitesses ou une justice en tout cas qui soit partiale. Les Séléka ont déclenché ce conflit, sont allés prendre le pouvoir à Bangui et l'ont conservé pendant plusieurs mois. Ils sont toujours actifs dans presque 80% du pays et ont commis de très nombreux crimes. Et donc, les Séléka aussi devront rendre des comptes, c'est une évidence, c'est une nécessité. Pour autant, les crimes des uns n'excluent pas les crimes des autres, oui. N'excusent pas les crimes des autres, et malheureusement, les anti-Balaka, même s'ils l'ont fait peut-être dans un geste patriotique, ont commis quand même de très nombreuses exactions contre la population civile, et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui jugés tant à Bangui, d'ailleurs, hein, oui. Ne l'oublions pas, ils sont aujourd'hui jugés par les juridictions centrafricaines, bientôt par la Cour pénale spéciale, et ils doivent rendre des comptes devant la CPI, puisqu'il y a deux leaders anti-Balaka qui sont maintenant devant la Cour pénale internationale.
Voilà. Alors, lorsque Patrice Edouard Nguessona est passé devant la justice française une première fois, il s'est présenté comme un patriote qui a réussi à ramener la paix dans le pays. Est-ce le cas ?
Oui. Alors non, c'est pas Patrice Edouard Nguessona qui a ramené la paix dans le pays. D'ailleurs, paix, il n'y a toujours pas véritablement en Centrafrique. On a encore entendu l'attaque de Bakouma il y a trois jours par le FPRC et l'UPC, deux milices Séléka. C'est vrai que la situation s'est améliorée en termes de sécurité dans l'ouest du pays. Et à ce titre, c'est important que un peu de sécurité existe. Les anti-Balaka qui se sont levés dans un geste patriotique de résistance au Séléka, je dirais personne ne le conteste véritablement. Par contre, un certain nombre d'entre eux ont commis des exactions, ont commis des crimes, et ça, et notamment contre la population musulmane, il faut appeler les choses comme par leur nom, mais pas uniquement. Les anti-Balaka sont devenus aussi des groupes armés, un peu comme les autres, il faut bien l'avouer, et ont mis sous leur coupe réglée une partie de la population, population qui s'en souvient, et en tant que à la FIDH, on reçoit beaucoup de personnes qui ont été victimes des exactions des anti-Balaka, qui n'étaient pas particulièrement des musulmans non plus, mais quand on a une arme, et ben de temps en temps, la plupart du temps, malheureusement, on s'en sert, et on s'en sert pour soutirer de l'argent, on s'en sert pour tuer, on s'en sert pour violer, on s'en sert pour blesser, etc. Et à ce titre, les anti-Balaka ont commis, ou tout au moins un certain nombre d'entre eux, pas mal de crimes, et il faut bien avouer que Edouard Nguessona a participé à la coordination.
Alors justement, quel était son rôle précis, d'après vous ?
Ben moi, je l'ai rencontré en février 2014, dans une enquête que l'on menait effectivement sur la situation à l'époque, et ses entretiens étaient assez clairs. Il se revendiquait comme le coordinateur national des anti-Balaka. Oui. De fait, il avait un contrôle assez important et assez effectif sur l'aile militaire des anti-Balaka, puisque les anti-Balaka, ce ne sont pas que des chasseurs traditionnels, mais ils étaient structurés en plusieurs factions, et à l'intérieur de cette faction, il y avait une faction dite militaire. Et cette faction militaire était composée de nombreux officiers des forces armées centrafricaines, des FACA, qui étaient du coup de fait démobilisés et qui s'étaient reconstitués en cette organisation et qui a structuré une partie des attaques et de la stratégie militaire des anti-Balaka. L'attaque du 5 décembre 2013 sur Bangui par les anti-Balaka ont été menées et structurées par cette faction militaire, y compris par Edouard Nguessona, selon les informations qu'on a pu recevoir. Mmh. On pense également qu'Edouard Nguessona fait un lien politique entre l'ancien président François Bozizé aile militaire des FACA. Tout ça doit être précisé, mais c'est les informations qu'on a pu recueillir sur le terrain. Et à ce titre, c'était un acteur politique et un acteur militaire pas négligeable. Il avait lui-même d'ailleurs une petite milice de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'hommes qui étaient actifs, notamment à Bohirab, qui est un quartier très anti-Balaka, de Bangui, où on pouvait les observer.
D'accord. Justement, les détracteurs de Patrice Edouard Nguessona lient son ascension en tant que patron du football centrafricain, mais aussi il a été candidat à l'élection présidentielle de 2015, ses liens avec l'ancien président François Bozizé, et ses connexions présumées avec l'actuel président Faustin Archange Touadéra. Alors sur ce dernier point, est-ce vrai selon vous?
Alors,
y a-t-il des liens avec l'actuel président
Avec l'actuel président, je pense que c'est des gens qui se connaissent. Hein. Le monde politique centrafricain est quand même très interconnecté. Les gens se connaissent. C'est pas un pays malheureusement avec 80 millions d'habitants, donc la classe politique se connaît beaucoup entre elles. Donc je pense qu'ils se connaissent. Je ne connais pas la réalité de la nature de leurs liens. Par contre, les faits nous démontrent que la proximité avec François Bozizé était importante, puisque il a été député du KNK, le parti de François Bozizé. Il a été ministre de François Bozizé. Il a été un homme d'affaires lié au clan Bozizé. On parle même de relations de parenté avec Bozizé. Ils viennent de la même région, etc., etc., etc. Donc, les faits démontrent quand même qu'il y avait une assez grande proximité entre les deux hommes, ou en tout cas entre leur entourage, ce qui explique ce rôle de ce qui pourrait expliquer ce rôle de lien entre François Bozizé et l'aile militaire des FACA intégrés au sein des anti-Balaka. Et c'est probablement ce lien un peu manquant que la Cour pénale internationale essaie de rechercher, notamment pour comprendre quel a été le rôle exact de François Bozizé après sa chute.
01 55 07 58 00, appelez-nous et dites-nous ce que vous pensez de cette actualité. Que pensez-vous de la décision de la Cour d'appel de Paris, et que pensez-vous aussi des accusations formulées par la Cour pénale internationale à l'encontre de Patrice Edouard Nguessona? Nous attendons vos appels. Nous avons en ligne Michael. Michael, bonjour.
Bonjour, Freddy Michael Guilé-Gongassois, ancien candidat au présidentiel groupe Union 2016.
Bon, on vous écoute.
Alors, je suis en train de saluer l'initiative de la France par rapport à l'arrestation de ce dernier.
Oui.
Mais en effet, nous disposons encore de ces criminels armés du point de vue du côté de Séléka, qui sont en toute liberté, qui sillonnent et qui vivent dans la capitale en République centrafricaine, dans des hôtels de luxe payés par l'État centrafricain, évidemment.
Oui.
Alors, il est temps aujourd'hui que la justice puisse se faire.
Oui.
Nous n'avons plus besoin des hommes forts.
Oui.
Nous sommes à la fin d'une époque où il faudrait promouvoir les institutions fortes.
Oui.
Alors, pour garantir la sécurité de toute une population, de tout un peuple, il est temps qu'on puisse avoir de la lumière, la transparence au sein de la justice, l'organe clé d'une nation.
Oui.
Alors donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps que nous puissions continuer à traquer tous les malfaiteurs de la République africaine jusqu'aux petits trous où ils vont se trouver.
D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord quand certains évoquent un deux poids deux mesures c'est-à-dire que la CPI pour l'instant n'a interpellé que des personnalités d'un seul camp, c'est-à-dire celui des anti-Balaka?
Mais je vous rappelle que la CPI n'a aucune armée.
Oui.
Et il est temps aujourd'hui que l'Union européenne ou l'Union africaine, tous les organes qui ont signé la Convention de Rome, pour mettre en place un dynamisme, pour mettre en place une armée afin de traquer tous les malfaiteurs. Aujourd'hui, si les anti-Balaka sont aujourd'hui pris et mettre au niveau de la CPI, je suis en train de dire que les choses vont se faire.
Oui.
Il n'y a jamais un sans deux, ni deux sans trois. Séléka finira par être traqué, compris tous les malfaiteurs.
D'accord.
Moi, je pense que c'est un modèle qui montre aujourd'hui qu'on ne fait pas qu'arrêter des musulmans ou des chrétiens, mais la justice est en train de faire son travail.
Très Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. 01 55 07 58 00 00 avant de redonner la parole à notre invité Florent Gel, responsable du bureau Afrique au sein de la Fédération internationale des droits de l'homme. Nous avons perdu un auditeur. Nous allons le rappeler d'ici quelques minutes. Alors Florent Gel, alors concernant la Séléka, est-ce que la CPI, qu'en est-il des procédures de la CPI concernant les membres de la Séléka? Est-ce qu'il y a des procédures en cours? Va-t-elle également procéder à des interpellations? Va-t-elle souhaiter des arrestations concernant des membres de la Séléka également?
Alors, c'est d'après les déclarations de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, soit ces procédures sont en cours, en tout cas, ils ont la volonté de les engager. J'imagine que des enquêtes sont en cours sur la partie Séléka. Je crois que la procureure l'a souligné à plusieurs reprises et en est très consciente, de ne pas refaire les erreurs qui ont pu être faites par le passé dans d'autres situations. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire, où la Cour pénale internationale a procédé à ce qu'on appelle une politique pénale par séquence, et où en gros elle a commencé par les pro-Bagbo en voulant ensuite aller sur les pro-Ouattara qui avaient commis des crimes. Et ça a donné cette impression d'une justice à deux vitesses, d'une justice de vainqueur et d'une justice sélective. Et je crois que la procureure Fatou Bensouda est très consciente de pas tomber dans cette erreur. Oui. La séquence fait en sorte, et votre auditeur a tout à fait raison, monsieur le candidat à l'élection présidentielle de 2015 l'a souligné, c'est assez difficile d'appréhender des criminels qui sont toujours en activité, puisque un certain nombre d'entre eux sont toujours à la tête ou participent à des groupes armés qui sont toujours actifs devant aujourd'hui en Centrafrique, et que donc les appréhender, c'est pas toujours facile. En tout cas, c'est plus compliqué que pour les anti-Balaka qui sont, entre guillemets, à la disposition de la justice et des autorités centrafricaines. Mais je veux revenir aussi sur le fait que la CPI ne fera pas seule la justice en Centrafrique.
Il y a la justice centrafricaine également, qui est active.
Également. Et d'ailleurs, et les autorités centrafricaines, je crois, sont particulièrement engagées dans cette lutte contre l'impunité. En tout cas, si je m'en réfère simplement aux actes qui ont été posés, il y a une volonté politique très forte. D'abord, le transfèrement de Alfred Yekatom s'est fait sous l'autorité des autorités centrafricaines. Deuxièmement, les autorités centrafricaines ont quand même mis en place la Cour pénale spéciale avec l'aide de la communauté internationale, mais c'est avant tout une Cour centrafricaine, donc la volonté politique était absolument nécessaire pour la mettre en place. Les juridictions nationales jugent et les autorités arrêtent, puisque le second, le numéro 2 de l'UPC a été arrêté le 8 décembre à Bambari, dans une opération qui était purement une opération centrafricaine. Donc on voit là qu'il y a quand même une très forte volonté politique accompagnée d'actes, accompagnée de conséquences qui font en sorte que la lutte contre l'impunité et ces trois étages, cet étage national, juridiction classique pénale, juge des lors de la dernière session criminelle à Bangui, il y a eu des peines capitales, enfin des peines à travaux forcés qui ont été prononcées contre des Séléka, des anti-Balaka et d'autres. Donc ça avance. Il y a ce deuxième étage, la Cour pénale spéciale, qui doit absolument se mettre en branle et travailler et aboutir à des résultats dans les meilleurs délais possibles, que dans le respect de la justice et de l'indépendance de la justice, mais quand même il faut qu'elle avance. Et évidemment, ce troisième étage à la fusée, qui est la dimension internationale, avec la Cour pénale internationale pour les plus grands criminels, ceux qui seraient plus compliqués à juger en Centrafrique. C'est comme ça qu'il faut voir cette lutte contre l'impunité. Elle ne se fera pas seule avec la Cour pénale internationale. On l'a vu à d'autres endroits. Quand on laisse simplement la CPI toute seule face à l'océan des crimes qui sont commis, elle ne peut pas tout faire toute seule. Et en général, c'est des échecs ou des semi-échecs. Je ne sais pas comment on peut les appeler. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une volonté nationale. Il faut que la CPI ne soit plus utile un jour. Malheureusement, elle le sera. Mais il faut qu'elle Il faut que les justices nationales prennent leurs responsabilités et que la CPI n'intervienne que quand ces justices nationales sont bloquées.
Mmh. Intervenez, chers auditeurs, appelez-nous au 01 55 07 58 00. Que pensez-vous de cette décision de la Cour d'appel de Paris, mais aussi hein, du rôle de la CPI, puisque la CPI, puisque Patrice Edouard Nguessona est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il est soupçonné d'avoir commis ou aidé à commettre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans l'ouest de la République centrafricaine, entre septembre 2013 et décembre 2014, 01 55 07 58 00. Notre invité, Florent Gel, responsable Afrique du bureau, responsable du bureau Afrique au sein de la Fédération internationale des droits de l'homme. Alors, Florent Gel, on a vu qu'à Bangui, plusieurs ministres issus de la milice anti-Balaka ont démissionné de leur poste pour protester contre l'arrestation de Patrice Edouard Nguessona. Peut-on craindre de nouvelles tensions dans le pays?
On pouvait le craindre. Je pense que c'est un geste politique compréhensible de la part du secteur anti-Balaka. Mais pour autant, les réactions violentes qui auraient pu se dérouler ne l'ont pas été. Je pense que c'est important et que c'est salutaire et que le mouvement anti-Balaka doit pouvoir se désolidariser de certains de ces éléments qui ont commis les crimes les plus graves, pour ne pas délégitimiser le mouvement d'une certaine résistance ou un mouvement patriotique tel qu'ils se l'attribuent eux-mêmes, que je ne juge pas et que je ne souhaite pas particulièrement commenter parce que c'est pas mon rôle, mais qu'une force politique existante, en tout cas, et ça il faut le reconnaître, mais cette force politique existante, elle est d'autant plus crédible qu'elle se désolidarise de ceux qui ont pu commettre des crimes graves. La justice est une composante essentielle de la réconciliation nationale. C'est pas moi qui le dis, c'est le forum de Bangui, ce sont les citoyens centrafricains, les citoyennes centrafricaines qui l'ont dit lors du forum de Bangui, en expliquant très clairement que ils souhaitaient une impunité zéro, ils souhaitaient la fin de cette impunité qui a été la cause principale de la récurrence des conflits en Centrafrique depuis une vingtaine d'années. Et donc, il faut, pour faire cette justice, il faut bien que tous ceux qui ont commis des crimes, qu'ils soient appelés patriotes, résistants ou autres, répondent de leurs actes. Et malheureusement, beaucoup de gens ont dans cette période de chaos et de conflits ont commis des crimes. Et c'est bien la difficulté de l'exercice d'une justice, c'est la justice doit être, entre guillemets, aveugle, elle ne doit pas sélectionner et elle ne doit pas être une justice ni à deux vitesses, ni une justice sélective. Mmh. Il faut également que la population ait le sentiment que cette justice soit rendue. Et je pense que de ce point de vue-là, il est fondamental, évidemment, que les CDK rendent des comptes, ça sera absolument nécessaire, pour comprendre et pour que la population puisse apprécier le fait que cette justice, elle a pu sanctionner des CDK, mais également des anti-Balaka. En tout cas, on n'a pas vu de mouvement large de contestation de ça. Et puis, de toute façon, Patrice Edouard Nguessona ou Alfred Nguessom, qui sont à la CPI, ou tous ceux qui sont dans les juridictions nationales, ne sont pas des présumés coupables. Ce sont des présumés innocents qui pourront et qui devront se défendre. Défendre. Mmh. Voilà.
Nous avons ligne Brice. Brice, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Brice.
J'espère qu'on m'entend bien. Alors en fait, la question c'était juste, déjà c'est salutaire ce qui se passe.
Oui.
C'est un événement qui est très bien pour l'Afrique et ça redore un petit peu l'image de la France.
Oui.
Vis-à-vis de certains des événements. Et je voulais juste demander à votre invité, qui explique très bien les choses.
Oui.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une différence de traitement entre le dossier Campaoré et celui-ci.
D'accord.
Si c'est bien le cas qu'il y a une différence.
C'est-à-dire, comment une différence de traitement, expliquez-vous?
En fait, c'est-à-dire la réactivité de la France par rapport au dossier Campaoré. Il y a une demande par rapport à la justice, au moins burkinabé,
d'accord,
par rapport à Blaise Campaoré.
Ce que vous voulez dire, c'est que la décision a été rendue plus rapidement concernant Patrice Edouard Nguessona que François Campaoré. Mais c'est pas le même contexte, c'est-à-dire que là c'était un État, c'est pas le même contexte, je pense. Mais Florent Gel effectivement peut répondre à cette interrogation. Vous souhaitiez rajouter quelque chose d'autre, Brice?
Savoir pourquoi cette rapidité de réaction, et elle est salutaire, mais pourquoi aussi rapide et aussi lent pour l'autre cas?
Très bien.
C'est juste ça.
Très bien. Merci beaucoup, Brice. Avant de prendre d'autres auditeurs, Florent Gel, peut-être une réponse à cette interrogation de notre auditeur.
Oui, bien sûr. Bon, d'abord, je partage son avis sur le fait que les justices puissent agir, avancer, et que la justice française coopère, que ce soit avec la Cour pénale internationale ou avec les autorités burkinabées, pour rendre justice, et un pas assez important. On a vu que par le passé, la France a quand même protégé d'ailleurs pendant très longtemps tous les génocidaires rwandais. Je veux vous dire, puisque la FIDH est partie civile dans la plupart des 25 dossiers des génocidaires rwandais en France, et qu'on a eu beaucoup de mal à faire avancer ces dossiers avant et pendant presque 20 ans. Maintenant, ça s'accélère. Mais alors, dans le dossier François Compaoré, la situation est effectivement un tout petit peu différente. Il s'agissait d'une demande des autorités judiciaires burkinabées de l'extradition effectivement de François Compaoré pour que ce dernier puisse rendre des comptes devant la justice burkinabée sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo.
Oui.
Qui est une longue affaire dans laquelle on a été aussi partie civile, qui a été réactivé à la suite de la chute du président Compaoré, et de façon tout à fait salutaire. Et donc là aussi, il y a des procédures à suivre, etc. Donc je ne sais pas s'ils ont été plus ou moins diligents ou pas, mais je crois que le principal, c'est le résultat. Le résultat, c'est que les deux individus vont rendre des comptes, l'un devant la CPI et l'autre devant la justice burkinabée. Et c'est le résultat en la matière qui compte. Je ne suis pas sûr que la justice française ait été trop lente dans l'un ou l'autre des cas, Pierre-Edouard Nguessona.
Patrice-Edouard Nguessona,
il est clair que il y a des délais aussi requis pour des détentions préventives, alors que François Compaoré, lui, n'était pas en détention au moment des faits.
Très bien.
Donc là aussi, il y a les droits de la défense qui jouent.
Très bien. Nous avons en ligne Ousmane. Ousmane, bonjour, et je crois aussi que vous avez une question à poser. Bonjour Ousmane.
Bonjour Nadir, bonjour à vous. Très honorable invité.
Oui,
je voulais lui poser une question.
Oui.
Généralement, les Africains, ils sont jugés à la CPI, à l'AE, pour exception de l'ancien président tchadien.
Oui.
Bon, les Cambodgiens, là, les Khmer Rouges, ils ont été jugés chez eux et par la TPI. Quelle différence a-t-il entre la TPI et la CPI?
D'accord. Très bien. C'est votre question. Merci beaucoup Ousmane pour votre intervention. Florent Gel, là aussi une réponse. Et c'est vrai qu'on entend souvent des critiques contre la CPI qui ne jugerait entre guillemets que des Africains.
Alors plusieurs éléments de réponse là-dedans. D'abord, les crimes qui ont été commis par les Khmer Rouges l'ont été avant l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale, et donc la Cour pénale internationale ne pouvait pas juger les Khmer Rouges. Il a donc fallu mettre en place un tribunal spécial, donc ce qu'on appelle les chambres cambodgiennes extraordinaires, pour juger les principaux leaders des Khmer Rouges. Ça a donc été fait l'objet d'un accord entre les Nations Unies et les autorités cambodgiennes.
Oui.
La seule limite à ces chambres cambodgiennes particulières, c'est qu'elles n'ont pas jugé tous les Khmer Rouges. Il y a encore des Khmer Rouges qui font partie du pouvoir actuellement à Phnom Penh, qui ont échappé aux poursuites, puisqu'évidemment ils étaient proches du pouvoir. L'actuel Premier ministre, qui s'est d'ailleurs transformé en presque dictateur aujourd'hui, puisqu'il a éliminé toute son opposition, lui-même a fait partie pendant longtemps du régime des Khmer Rouges. Donc on voit que même s'il y a eu un effort de justice au niveau des chambres cambodgiennes extraordinaires, rendre la justice est toujours difficile.
Oui.
Sur la Cour pénale internationale, et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains, c'est essentiellement parce que les États africains sont le plus grand nombre d'États à avoir adhéré à la Cour pénale internationale. Ça vient de l'histoire de l'Afrique. Quand les États africains ont adhéré massivement à la Cour pénale internationale, c'était ce qu'on a appelé la conférence de Dakar en 1998, où tous les États africains qui sortaient d'une décennie de crimes les plus graves et de conflits les plus atroces, les génocides du Rwanda, le conflit au Libéria, le conflit sierra-léonais, etc., etc., on fait un constat que les justices nationales n'étaient à l'époque pas suffisamment solides et pas suffisamment constituées pour pouvoir juger les auteurs de ces crimes les plus graves. Et donc, on souhaitait se mettre ensemble avec les autres États de la planète pour faire en sorte que la Cour pénale internationale puisse juger ceux qui ne pouvaient pas être jugés en Afrique même.
D'accord.
Mais la Cour pénale internationale n'est pas une obligation. Si la justice nationale, et si les justices nationales africaines aujourd'hui décident de juger leurs propres bourreaux, elles peuvent très bien se passer de la Cour pénale internationale et elles le feront à juste titre et de façon légitime.
Donc il vaudrait mieux que ce soit la justice des pays africains qui juge les criminels présumés ou les criminels de guerre présumés plutôt que la CPI.
Oui, et elles en ont l'obligation théoriquement. C'est simplement quand elles ne peuvent pas, quand elles n'ont pas les capacités ou quand elles n'ont pas la volonté politique de le faire, alors elles peuvent s'en remettre à la Cour pénale internationale. Mais la Cour pénale internationale n'est qu'une cour de dernier recours, en quelque sorte.
Oui.
Les États africains ne sont pas obligés de passer par la Cour pénale internationale pour juger des crimes les plus graves.
Très bien. Alors nous allons prendre très rapidement un dernier auditeur, Jean. Jean, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour, on vous écoute très rapidement. Il nous reste très peu de temps.
Oui, j'appelais pour intervenir dans l'émission, en fait... à propos de la France, qui amène pas mal d'Africains à la CPI. Et quand je vois,
c'est pas la France. Attendez, c'est soyez
la
précis. Oui.
Française.
Oui.
Ouais, pour être plus précis.
D'accord.
Et quand je vois pas mal de frères africains applaudir ce geste-là, quelque part, je me dis, la France aussi a commis pas mal des actions. En Afrique.
Très bien.
Bon, précisément, moi, je parle du cas de la Côte d'Ivoire en 2006. Il y a eu des manifestants qui ont été tirés et abattus par les forces de l'ordre françaises. Et jusqu'à là, on n'a jamais eu... la justice française s'est jamais prononcée sur ce sujet-là. Et jusqu'à là, on ne sait pas.
Très bien, Jean. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup, Florent Gel, d'avoir participé à ce journal des auditeurs.
Merci
d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes responsable du bureau Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme. Merci aux auditeurs pour vos appels. Merci également Maxime qui réalisait cette émission. Continuez le débat sur notre page facebook.com/journaldesauditeurs. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa numéro 1.